Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Borello, il est président fondateur du groupe SOS. Le groupe SOS est un grand groupe de l'économie sociale et solidaire, plus de 17 000 salariés. Vous êtes présent dans différents secteurs liés à la réinsertion, à la déradicalisation, on en a parlé, c'est votre dernière activité, ou bien encore à l'agriculture dans une perspective écologique. Et puis vous êtes aussi délégué national à la transformation économique et sociale chez En Marche. Et justement, lorsqu'on observe la vie politique d'Emmanuel Macron depuis son élection, on est frappé de voir que cet homme qui présentait tout d'abord un profil balancé, le fameux en même temps, et aujourd'hui peut-être de moins en moins balancé et de moins en moins populaire, pour rebondir à ce que vient de dire Frédéric Saïz, assiste-t-on en France aussi au crépuscule démodéré, selon vous, Jean-Marc Borello ?
Bien, si ce crépuscule démodéré est suivi par l'aube des progressistes, ça me va. Moi, je suis plutôt radical. Je pense qu'il faut des solutions radicales à mettre en place face à la détérioration des conditions climatiques. Il faut être radical sur l'abandon d'un certain nombre de territoires de la République dont nous avons parlé. Il faut être radical dans l'investissement contre la pauvreté. Il faut être radical dans la réforme de la santé. Il faut être radical dans la réforme des relations du travail. Il me semble que nous avons été plus radicaux que modérés. Quant à l'équilibre, l'équilibre, il nécessite de mettre un pied devant l'autre. Avant de distribuer de la richesse, il fallait la créer. Les conditions de création de richesse ont été recréées dans ce pays. Aujourd'hui, l'investissement étranger augmente, le nombre d'emplois augmente, le nombre de CDI par rapport au nombre de CDD augmente. Donc un certain nombre de signaux faibles sont présents, mais l'avantage c'est que depuis le terrain, on voit bien les signaux faibles, on voit que les choses sont en train de se transformer, mais effectivement, on ne peut pas avoir un abord tiède, comme sans doute ça a été le cas depuis trop longtemps dans ce pays, qui consistait à distribuer de l'argent qu'on empruntait à nos enfants en faisant grandir la dette. Il y avait nécessité d'être absolument radicaux. Et je pense que les réformes qui sont en cours de fonctionnement sont des réformes radicales.
Alors avant que je ne cède la parole à mon camarade Frédéric Saïz, expliquez-nous malgré tout comment vous en êtes venu à rejoindre La République En Marche. Vous avez commencé en politique avec Gaston Defferre. Je dis commencé en politique, vous n'étiez pas un élu, mais vous avez travaillé à ses côtés. Ensuite, vous avez travaillé avec Laurent Fabius, plutôt socialiste. Qu'est-ce que vous faites chez En Marche ?
Alors d'abord, je n'ai jamais fait de politique. J'étais fonctionnaire et j'ai été aspiré dans des cabinets ministériels.
Vous n'êtes pas aspiré contre Saugré, surtout un homme comme vous.
J'avais des responsabilités syndicales, j'avais un certain nombre de sujets à pousser. J'ai mis ce que je savais faire du point de vue technique au service des différents ministres que j'ai servi avec beaucoup de bonheur. D'ailleurs, je me suis toujours très éloigné du monde politique. Je n'ai jamais été militant, je n'ai jamais été élu. J'ai accompagné le président de la République, d'abord parce que je le connaissais depuis 15 ans et que c'était un ami, et ensuite parce que
c'était votre
projet,
élève, il faut le préciser, à Sciences Po.
Il a été dans une classe que j'animais à Sciences Po, donc je le connais depuis très longtemps. D'une part, c'est un ami, et ça n'a rien à voir avec le reste du monde, et ça ne fait pas moi ni un visiteur du soir, ni un conseiller occulte, ni quoi que ce soit d'autre. Juste un ami qui voit d'ailleurs beaucoup moins son ami depuis qu'il est président de la République. Et par ailleurs, le programme qui était envisagé me convenait parfaitement parce que je vivais depuis un certain nombre d'années un écartèlement entre cette volonté de solidarité, cette nécessité d'être plus proche de ceux qui étaient en difficulté, et puis la responsabilité d'un chef d'entreprise, fût-elle sociale, qui passait sa vie à se heurter à des réglementations imbéciles, à des lois du travail trop rigides. Donc objectivement, j'ai eu, en tout cas moi, à titre personnel, l'impression de remarcher sur deux jambes.
Alors certains journaux vous ont surnommé le monsieur social d'Emmanuel Macron. De ce point de vue, le social, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qu'a fait le gouvernement depuis qu'il est à l'œuvre ?
Je suis en tout cas extrêmement satisfait des choix qui ont été faits. Je considère que lutter contre la pauvreté, ça n'est pas faire preuve de charité. Je pense que l'idée, c'est que lorsqu'on lutte contre la pauvreté, on investit de manière à faire en sorte que les personnes quittent la pauvreté, et particulièrement la grande pauvreté, et pas simplement aménager une pauvreté plus confortable à laquelle on s'était habitué. Je pense que lorsqu'on donne des droits nouveaux aux personnes en situation de handicap, ce qui a été le cas la semaine semaine dernière au comité interministériel où on leur permet de se marier, de voter, où on supprime des absurdités qui conduisaient des personnes handicapées avec un handicap définitif à aller 5 fois dans leur vie démontrer administrativement qu'ils étaient bien handicapés. Ce qui est quand même, je pense que le comble de l'absurdité et de l'humiliation, c'est de demander à une personne qui est handicapée d'aller tous les 5 ans justifier de son handicap. Tout ça est supprimé. Je crois que nous avons une volonté de transformation radicale. Et encore une fois, je suis
une
tout
volonté
sauf tiède.
Une volonté de transformation radicale peut-être, mais d'un côté, votre vision omet un certain nombre de mesures d'Emmanuel Macron, des mesures liées plutôt à l'aide aux très riches, dit François Hollande. Face à toutes ces mesures, je ne vais pas en faire la liste, tout le monde les connaît, une réforme de l'ISF qui profite à ceux qui ont une fortune importante, un certain nombre de choix en matière de fiscalité qui pèsent sur les retraites moyennes, disons. Comment vous réagissez par rapport à ça ?
Reconnaître la difficulté de certains, c'est autoriser le talent des autres. Je ne pense pas qu'on fera qu'il y ait moins. Je pense pas qu'il y aura moins de pauvres s'il y a moins de riches. Moi, j'aimerais qu'il y ait moins de pauvres et plus de riches. Permettre au talent d'exister, permettre à la richesse nationale de se développer, c'est absolument essentiel. Ce qui est important, c'est la manière dont on distribue cette richesse. Et la loi Pacte, qui est passée en première lecture à l'Assemblée nationale, va donner enfin la possibilité à un texte et une idée du général de Gaulle, qui ne date pas d'hier, de permettre une meilleure répartition des richesses par la participation et l'intéressement. Nous avons fait des choix vers ceux qui étaient le plus en difficulté. Augmentation de l'allocation adulte handicapé comme elle n'a jamais augmenté. Augmentation du minimum vieillesse comme ça n'a jamais augmenté. Ciblage des efforts de l'éducation nationale dans les quartiers les plus en difficulté. 4 millions de personnes seront concernées par les mesures dans les zones REP et zones REP+. Donc contrairement à ce qui se dit, même si on a quelquefois l'impression que répéter un mensonge finit par le transformer en vérité, ont été faits en faveur de ceux qui étaient le plus en difficulté. Et je ne parle pas des 15 milliards investi pour lutter contre l'exclusion par la formation professionnelle, les contrats d'alternance qui marchent extrêmement bien, l'apprentissage repart dans ce pays et les parents nous écrivent pour nous dire que c'est extraordinaire parce que l'apprentissage a redonné à leurs enfants un chemin vers l'avenir. Donc les choses sont en train de se faire.
Mais alors, pour rebondir sur la question de Guillaume, vous, dans le groupe SOS que vous dirigez, vous avez limité les salaires de 1 à 10. C'est cette échelle qui prévaut dans votre groupe. Est-ce que vous recommanderiez à Emmanuel Macron de faire pareil, si ça marche chez vous, à l'échelle nationale ?
Non, évidemment pas. Je crois que la liberté... Moi, je crois beaucoup à la vertu de l'exemple. Ce que nous voulions faire, nous, c'était démontrer qu'on pouvait créer une grande entreprise sans actionnaire, une entreprise qui se développe, sans un écart de salaire qui nous paraissait pas légitime, et il se trouve que cette entreprise accueille depuis 20 ans les meilleurs élèves des grandes écoles d'HEC à Polytechnique, parce que les gens ont envie de retrouver un sens à leur emploi, et moi j'invite mes camarades entrepreneurs, quelle que soit la structure juridique de leur entreprise, qui sera bientôt facilité par la loi Pacte, avec cette raison d'être qui paraissait saugrenue quand Nicole Nota l'a proposé. Demain, les entreprises pourront être des entreprises inclusives, quel que soit leur choix. Nous avons simplement démontré, de manière sans doute un peu radicale, parce que je dois manquer de nuances à titre personnel, qu'on pouvait avoir une autre économie performante et que cette économie, elle servait l'intérêt général. On peut pas opposer l'économique et le social.
Mais on ne peut pas étendre votre modèle ?
Pardon ?
On ne peut pas étendre, généraliser votre modèle de 1 à 10 ?
On peut faciliter ce modèle. J'ai travaillé avec Benoît Hamon à la préparation de la loi sur l'économie sociale et solidaire. On a déjà enfoncé un certain nombre de portes qui méritaient de l'être. Je crois qu'il faut aller plus loin. Le haut commissaire à l'économie sociale, Christophe Ithier, est en train d'avancer. Sur la pauvreté, Olivier Noblecourt, délégué interministériel, a fait des propositions qui me paraissent réellement révolutionnaires par rapport au passé.
Qu'est-ce qui vous a paru révolutionnaire ? Parce que les observateurs n'ont rien trouvé de révolutionnaire.
Parce que les observateurs voient sans doute les choses peut-être de près. Quand on vieillit, vous savez, on voit moins bien de près, mais sans doute que de loin, on voit un peu mieux. Donc, l'idée générale, c'est que moi, j'ai toujours combattu amicalement cette idée de charité. SOS n'est pas une organisation charitable.
Qui voulait faire de la charité ? expliquez-nous, parce que c'est la deuxième fois que vous employez ce mot.
La bonne conscience du social vue par un certain nombre de professionnels. Je pense que il y a des organisations.
Quoi, par exemple, le RSA, c'était de la charité.
L'idée de faire en sorte que la pauvreté soit supportable, que la misère puisse ne pas provoquer de révolution, est une idée qui ne me convient pas. Lutter contre la pauvreté, c'est permettre aux gens d'en sortir. Et il faut être radicaux dans ses choix, radicaux dans ses investissements.
Radical, ça veut dire les obliger à traverser la rue ?
Ça veut dire leur permettre de traverser la rue. Pour traverser la rue, il faut que quelqu'un vous prenne la main si vous n'osez pas le faire. Le travail des éducateurs dans ce pays, des entreprises sociales, c'est justement de tendre la main et de permettre. Mais arriver de l'autre côté de la rue, il fallait qu'il y ait un emploi. Des emplois, il n'y en a jamais eu autant disponibles dans ce pays. Vous pouvez...
Là aussi, la question est débattue, Jean-Marc Bordeaux. Parce que vous êtes un professionnel de ça. Vous savez bien que ces jeunes, leur problème, c'est qu'ils n'osent pas traverser la rue.
Il y avait deux sujets. Quand vous traversez la rue et que de l'autre côté de la rue, la porte est fermée, ça ne sert pas à grand-chose et on ne retraverse pas dans l'autre sens. L'idée, c'est de faire en sorte, un, que de l'autre côté de la rue, des entreprises embauchent. Traverser la rue pour ces jeunes aujourd'hui, c'est leur donner une formation qui leur permettra, un, de traverser la rue, deux, de retraverser la rue chaque fois qu'ils en auront envie. L'indépendance, c'est une formation personnelle. Le reste, ça n'existe pas.
Alors, vous avez rencontré l'élève Macron au début des années 2000, vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait déjà chez cet étudiant en germe du macronisme qu'on connaît aujourd'hui ?
Humainement, une curiosité insatiable et un besoin de comprendre, y compris dans le détail, comment on fait évoluer les choses. Je crois que le vrai sujet, c'est que il faut aller jusqu'à ce diagnostic un peu sévère, constater les choses et le dire, les nommer. On ne fait pas disparaître les problèmes si on ne les nomme pas. Et ensuite, élaborer des réponses qui soient des réponses nouvelles. On n'a pas créé l'ampoule électrique en améliorant la bougie. Il y a un moment donné où il faut être capable d'inventer de nouveaux dispositifs, de supprimer tout ce qui empêche cet escalier social ou cet ascenseur social dont on parlait, c'est la possibilité de mettre fin à l'assignation à résidence est un sujet majeur de ce quinquennat et je pense que nous y parviendrons.
Lorsque l'on voit aujourd'hui les éléments de langage qui sont utilisés en Macronie, la symbolique, c'est important la symbolique dans un pouvoir, il y a énormément de gens très talentueux, mais des premiers de cordée autour d'Emmanuel Macron. Vous trouvez pas qu'il y en a trop, que Emmanuel Macron, on a l'impression finalement qu'il veut gouverner la France pour les vainqueurs?
Je crois qu'on gouverne la France pour l'ensemble des Français. Et que il faut à la fois, ou en même temps, pardon d'être caricatural, permettre à ceux qui, pour des raisons diverses et variées, ont eu la chance d'être formés, de créer, de développer, en clair, le monde des start-up, mais pas uniquement, pour pas être caricatural, permettre à ceux-là d'avancer le plus vite possible, en faisant en sorte que ceux qui n'ont pas eu cette chance puissent bénéficier de cette richesse créée. Encore une fois, on n'oppose pas la création de richesse et la solidarité. La solidarité est permise par la création de richesse. Et donc, l'ensemble de la population...
S'il y a redistribution, mais si...
Mais parce qu'il y a redistribution. Le plan pauvreté n'a jamais mobilisé autant d'argent que celui qui vient d'être annoncé par Olivier Noblecourt. Sur la formation professionnelle, c'est 15 milliards qui ont été mobilisés. Donc nous mobilisons des moyens
l'argent,
considérables.
Il y a toujours eu plein d'argent pour la formation professionnelle, on ne sait pas où il va.
Sauf que nous réussissons... Alors, on ne savait pas où il va. Aujourd'hui, il est sous le contrôle, de par sa décentralisation, en particulier de l'ensemble des régions en lien avec l'État. Donc on saura parfaitement où il va. Et si on ne le sait pas, évidemment, on fera en sorte que les opérateurs évoluent. Donc nous avons
les opérateurs,
ouvert
ce sont
les
OPCA. Non,
c'est le millefeuille qui...
Voilà. Parce que personne n'y comprend rien.
Mais quelquefois, quand personne n'y comprend rien, ça arrange ceux qui ont organisé l'opacité.
Les syndicats ?
Pas que les syndicats et toute une série d'organisations.
Moi, je ne vois pas qui d'autre en dehors des syndicats.
Vous avez cité un certain nombre d'organismes dont la légitimité n'était plus tout à fait justifiée.
Voilà. Je termine votre phrase.
Voilà.
Frédéric Seitz.
On a l'impression que tout vous satisfait dans ce début de mandat d'Emmanuel Macron.
Non.
Vous citez toutes les réussites. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui vous insatisfont ?
Oui, ce qui m'insatisfait, c'est ce que En tout cas, ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire l'erreur que j'ai commise depuis le début de cette aventure, c'est de considérer simplement que la priorité était à la réforme et sans doute passer moins de temps à faire de la pédagogie. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de réformes, qu'elles n'ont jamais été aussi importantes, qu'elles se succèdent à un rythme effréné. Sans doute qu'on ne prend plus assez de temps pour expliquer chacune des réformes.
Donc une question de forme, mais pas de fond.
Sans doute que nous ne sommes plus suffisamment pédagogues pour mettre l'ensemble de ces réformes en perspective. Donc il y a une nécessité, alors c'est sans doute pour ça que je suis là aujourd'hui et que je n'ai pas une grande pratique de la fréquentation des médias, c'est qu'objectivement, on s'était dit, on transforme, on bosse et les résultats suffiront. En fait, ça ne suffit pas.
Mais rien sur le fond.
Il faut faire
sur le
de la
fond,
pédagogie. Sur le fond, objectivement, nous essayons.
La question, la question des migrants, ça vous va pas quand même?
Non, mais la question des migrants.
Jean-Marc Borrello.
Il se trouve que le groupe SOS est l'organisation qui accueille le plus de migrants dans ce pays.
Alors.
J'ai participé avec Monsieur Cazeneuve, qui est un excellent ministre de l'Intérieur et Premier ministre, au démantèlement de Calais. Nous avons ouvert plus de 5000 places en moins de 2 ans. Quelle est la réalité aujourd'hui de ce qui se passe dans nos établissements? Grâce au rapport du député Aurélien Taché, ancien salarié du groupe SOS, qui connaissait un peu les sujets, nous avons aujourd'hui systématiquement les moyens de leur apprendre le français. Nous avons la possibilité d'accélérer les procédures.
Ce que vous faites à SOS, personne n'en dit combien, mais le gouvernement voulait faire l'inverse.
Ce que nous faisons à SOS, c'est ce qui a été rendu possible par les réformes en matière d'accueil de migrants. Le fait de raccourcir les délais pour l'obtention du statut de réfugié, c'est une réalité. Si on veut faire du show business, si on veut annoncer des dispositifs flamboyants, le sujet c'est que ça ne fonctionne pas. La critique des uns et des autres est parfaitement utile. Et je crois qu'il faut écouter les opposants responsables qui ont des idées. La caricature me paraît, en particulier depuis certains lieux, plutôt l'hommage de la médiocrité à l'excellence.
Oh, ça c'est méchant. Ça vise qui ?
Je peux le faire.
Mais ça vise qui ?
Ça vise tous ceux qui considèrent que la caricature est un moyen d'expression en politique. Et je considère que, d'une part, les modérés ne doivent pas disparaître, qu'ils doivent devenir plus réformateurs, et que, par ailleurs, nous devons avancer en acceptant la complexité du monde.
Aujourd'hui, vous êtes en politique, Jean-Marc Borrello, puisque vous êtes président de la commission d'investiture pour les Européennes pour la République en Marche, ce qui veut dire que si on veut être sur la liste, il faut être adoubé par vous. Et adoubé par vous aussi, en tant que candidat. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bouclé un accord hier.
Alors, il se passe qu'il ne suffit évidemment pas d'être adoubé par X ou Y. Hier, nous avons nommé une commission de 12 personnes, représentants des parlementaires, députés, sénateurs, des militants de La République En Marche, des spécialistes de l'Europe. Donc, on a bouclé un processus de candidature. Donc, les candidatures vont arriver. Il y en aura vraisemblablement plus de 1000. Il y a une obligation pour cette commission de sélectionner de mémoire autour de 79 personnes qui seront un jour qui seront sélectionnées. Alors, le processus, c'est à la fois le calendrier, évidemment, un processus qui se fixe non seulement un modus operandi, mais aussi des obligations. Et les obligations, j'ai peur d'être terriblement banal quand je dis ça, mais c'est un, valider le réel investissement européen des candidats.
Donc pas une candidature de témoignage parce qu'on n'a pas eu un poste au niveau national, comme
ça,
c'est arrivé par le passé.
Ça sera proscrit. Il n'est plus question de choisir les plus mauvais d'entre nous ou ceux qui ont raté les 14 autres élections nationales pour les expédier sur un siège, fut-il doré, ici ou là. Deux, une réelle expertise. Assumer l'expertise. L'Europe, c'est un sujet aussi sur lequel il faut être capable de maîtriser les grands enjeux de la transition écologique, les grands enjeux de ce que va affronter l'Europe, c'est-à-dire l'énergie, la défense commune, etc. Donc, assumer cette expertise. Il faudra, même si la liste est nationale, qu'il y ait une représentation des territoires, parce qu'il ne peut pas y avoir des candidats qui seraient tous issus de l'Île-de-France, il faudra une vraie diversité, il faudra une parité, il faudra dans la liste que s'engagent de véritables Européens avec une compétence politique, parce que là encore, c'est une institution qui n'est pas simple, dont nous avons besoin comme jamais, et qui a besoin d'être réformé comme jamais.
Mais donc, pour l'instant, il y a assez peu de noms finalement qui font consensus au sein de la République En Marche. On a même l'impression que ce n'est pas forcément un poste qui attire les figures les plus expérimentées ou les plus talentueuses de la vie politique. Alors vous avez forcément des gens déjà qui vous envoient leur CV, mais au-delà des candidatures modestes, est-ce qu'il y a un problème pour désigner une tête de liste qui soit reconnaissable par tous les Français, qui tire cette liste dans une élection qui, par définition, sera très difficile? Ce sera la première élection intermédiaire du quinquennat Macron.
Objectivement, nous n'avons jamais manqué de candidats à rien. Pas plus pour former des gouvernements, contrairement à ce qui a été dit. Je dois vous avouer que le sujet, c'est plus le choix parmi les candidats, mais sans doute que le candidat n'est considéré En Marche, et c'est vrai sur l'ensemble des postes, qu'en fonction de son projet. Le sujet n'est pas de trouver l'homme.
Il y a eu des petits dosages politiques quand même, Jean-Marc Borello. Entre nous, des dosages politiques pour le gouvernement.
Il y aura des dosages politiques, c'est-à-dire que la liste qui sera présentée intégrera les femmes et les hommes de bonne volonté qui viennent d'ailleurs. C'est l'ADN de ce mouvement.
Qui va être tête de liste?
L'ADN, c'est de dire celui ou celle qui sera choisi parmi celui ou celle qui aujourd'hui celles et ceux qui sont candidats. Mais encore une fois, la réunion de la commission commence la semaine prochaine.
Alain Juppé a vocation à être dans cette liste bien placée.
Pour avoir vocation à être dans cette liste, il faut candidater. Je n'ai pas vu passer sa candidature.
Ça, vous nous avez déjà fait le coup avant, mais Alain Juppé ne candidate pas. J'imagine qu'on lui propose, voyez, quelque chose. Enfin, vous connaissez mieux ces choses-là que nous, Jean-Marc Borrell.
On propose à toutes celles et ceux qui remplissent les conditions que je viens d'énoncer d'envoyer une vidéo de 2 minutes, un texte fondateur qui sera examiné par la commission, qui se prononcera de manière démocratique sur qui sera sélectionné. Oui, cette liste sera ouverte indépendamment de La République En Marche à celles et ceux qui veulent lutter contre les nationalismes qui se manifestent ici et là. Nous avons un enjeu majeur. Hein. On avait en Europe, ici et là, des clowns et des fascistes. Au Brésil, on a un clown fasciste. C'est une nouveauté. Ils ont réussi à se rejoindre. Il est impérieux de défendre nos valeurs, notre programme. Et je crois que le progressisme, c'est un vrai sujet pour demain, entre le fait d'être modéré et le fait d'être extrémiste.
Vous n'avez pas de problème pour recruter, mais vous avez un problème de démission à La République En Marche. Vous êtes chef d'entreprise, vous le savez, Hulot, Collomb. Comment vous expliquez le peu de longévité d'un ministre sous l'ère Macron?
D'abord, je ne suis pas persuadé que si on faisait une statistique des divers gouvernements, il y aurait plus de départs. Je crois que nous avons fait le choix.
Là, je crois que si, un peu.
Nous avons fait le choix de choisir des personnalités qui, d'une part, ne sont pas totalement dépendantes de notre univers. Les députés que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale, ils avaient un métier avant. Certains reprendront leur métier après. Nous considérons que la politique ou les fonctions qu'on occupe ne sont pas des sinécures dans lesquelles on s'installe et qui donnent droit automatiquement à une poursuite des activités. Tant mieux si ça bouge, c'est aéré. Moi, je suis ravi de voir aujourd'hui le fonctionnement de l'Assemblée nationale. J'ai participé à la Commission nationale d'investiture aux côtés de Levoix.
Nous avons pris
des législatives, pardon. Nous avons pris des risques. Nous avons pris des risques d'une composition très différente sociologiquement. Je suis ravi de voir la parité. Je suis ravi de voir la diversité. Évidemment, ces malheureux députés ont d'abord été accusés d'être des godillots, ensuite d'être accusés d'être un troupeau désordonné qui ne répondait à personne.
C'est l'un n'empêche pas l'autre.
Démocratique. Non, parce que ça prouve qu'il y a eu débat. Et je trouve que les choses, là aussi, sont en train de s'organiser.
Mais vous êtes régulièrement cité pour être ministrable. Hein. On voit à chaque fois les papiers qui sortent à l'occasion des remaniements.
Je ne sais plus.
Vous auriez peur de ces responsabilités?
Je serais très mauvais.
Pourquoi? Vous êtes très bon comme politique.
Parce que je suis totalement indépendant, parce que je suis relativement incontrôlable, parce que je suis globalement radical, parce que je mets avant tout ma liberté, parce que j'ai investi les 35 dernières années de ma vie dans un projet que je considère comme majeur. Le groupe SOS, c'est aussi une manière de transformer le monde, que je suis plus près que de l'arrivée que du départ, qu'il me reste à transmettre, à écrire, à organiser mes camarades autour de moi pour que cette maison fonctionne mieux après mon départ que pendant ma présence. Donc j'ai d'autres priorités, et comme tout citoyen, en plus du temps que je consacre à mon boulot, j'ai un engagement militant qui est celui de délégué national d'En Marche. Tout ça me comble et je n'ai absolument aucune aspiration. Je ne serai candidat à rien, quoi qu'il arrive.
Quand même, vous donnez des conseils à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour essayer, faire en sorte que sa popularité remonte? Donc vous parliez de pédagogie. En dehors de ça, Jean-Marc Borrello.
D'abord, je ne donne pas de conseils au président de la République. Il m'arrive de dire ce que je pense à lui et à d'autres, et les gens en font ce qu'ils veulent en faire. Je suis absolument persuadé que s'il y a bien quelqu'un qui est capable de décider seul après avoir écouté tout le monde, c'est lui.
Une dernière question, Frédéric Saïd.
Un dernier mot sur le social. Vous savez que la grande réforme qui arrive sera évidemment la réforme des retraites, avec le fameux point qui doit maintenant permettre que chaque travailleur ait les mêmes droits. C'est en tout cas les éléments de langage, ce sont les éléments de langage du gouvernement. Est-ce que vous, qui dites pour vous-même que vous êtes plus près de l'arrivée que du départ, c'est une philosophie qui vous correspond ou est-ce que ça vous fait un peu grogner ?
La philosophie qui me correspond, c'est de sauver le système tel qu'il est aujourd'hui. Je crois au système par répartition, je crois à la solidarité entre les générations et je ne veux pas que par médiocrité, on arrive à un système par capitalisation qui serait le plus injuste qui soit. Ensuite, il y a nécessité de faire de la clarté. Aujourd'hui, personne ne sait, en cotisant un euro, ce qu'il adviendra de cet euro au moment où il sera lui-même bénéficiaire de la retraite. Donc, encore une fois, un système qui est en difficulté, il faut faire un diagnostic précis, accepter une réforme qui sera radicale et qui garantira le principe qui est celui de la retraite par répartition, c'est-à-dire la solidarité.